en séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Perpétuel, Mesdames les Académiciennes, Messieurs les Académiciens, c'est à la fois un plaisir, un honneur que vous me faites en me laissant vous présenter quelques idées sur les mathématiques en sciences sociales. J'espère répondre à l'honneur, je n'en suis pas sûr, je ne suis pas sûr d'en être capable. En tout cas, le plaisir est là, permettez-moi de vous le dire. Alors, je n'ai pas été tout à fait fidèle à ma mission parce que Monsieur le Président Bourgeois m'avait confié l'étude du rôle des mathématiques en sciences humaines. Et j'ai donc trahi légèrement son intitulé. Pourquoi ? Parce que je veux éviter une querelle sur les délimitations qui n'est pas de premier plan aujourd'hui, et parce que l'appellation de sciences sociales s'applique par convention à l'économie et qu'il s'agira surtout de l'économie aujourd'hui. Mais ce qui en sera dit se voudrait généralisable. À nouveau, aux autres disciplines catégorisées comme sciences sociales. Et je fais exception pour l'histoire qui, selon moi, demanderait un traitement épistémologique tout à fait particulier. Alors, une première difficulté du sujet est qu'il est difficile de parler du rôle des mathématiques sans évoquer leur présence historique et concrète dans ce qu'on appelle sciences sociales. Autrement dit, sans évoquer le développement historique de leur mathématisation. Et il se trouve que dès le XVIIIe siècle et le XIXe siècle, apparaissent des signes de mathématisation très explicites dans ce qui deviendra la science économique ou la science politique. D'où le risque, en étudiant un processus de mathématisation apparemment particulier, d'embrasser la presque intégralité de l'histoire des sciences sociales. Mais ce n'est pas le seul risque, parce que le point de vue historique ne suffit pas. Comment en effet traiter de mathématisation sans faire d'abord l'épistémologie de ce processus ? Et voilà le genre de question. L'usage réfléchi de données quantitatives qui se pratiquent déjà au XVIIe siècle et au XVIIIe siècle relève-t-il, je me permettrai donc. Merci, Monsieur le Secrétaire Perpétuel. L'usage réfléchi des données relèverait-il par lui-même des mathématiques ? Sinon, quels critères ? Et de quelles mathématiques parle-t-on d'ailleurs ? Du calcul des probabilités qui était recommandé par certains au XVIIIe siècle, de l'analyse pour laquelle le XIXe siècle a une préférence, ou de l'algèbre et de ce qu'on appelle au XXe siècle les mathématiques qualitatives. Donc, nous risquons d'être écrasés par les préalables avant de parler du sujet même du rôle des mathématiques. Alors, j'ai proposé le court-circuit suivant, délimiter le concept de la mathématisation en même temps que jeter quelques informations sur le processus historique, et cela sera fait sous la forme d'exemples. Le tableau économique de Quesnay, le paradoxe de Condorcet, la réponse de Bernoulli et paradoxe de Saint-Pétersbourg. Vous voyez, c'est ce qu'on peut appeler du grand classique. Ayant ainsi réglé les préliminaires, on traitera enfin du rôle des mathématiques, et je crois en avoir le temps, si j'ai bien fait mon calcul. Le tableau économique de Quesnay, commençons par lui. Alors, c'est la première représentation d'une économie nationale vue comme un système d'échange entre des groupes d'agents. Les agents de Quesnay, vous le rappelez, ce sont les propriétaires fonciers, les fermiers et les artisans qui sont décorés de l'appellation un peu satisfaisante de classe stérile. Donc un système d'échange entre trois groupes d'agents est par ailleurs un système qui est soumis à une contrainte de viabilité globale et en l'occurrence, il faut que les dépenses engagées par chaque classe se retrouvent comme rentrées. Le tableau paraît en 1758, fait l'objet des différentes rééditions et il existe une version simplifiée qui suffira ici. Alors, je vous demande de regarder le haut de la page seulement pour l'instant. C'est ce que Quesnay appelle un zigzag sous une forme simplifiée parce qu'il en a produit des formes beaucoup plus complexes. Et au moins, cette forme, on arrive à l'analyser. Alors, je ne vais pas faire l'analyse entière, mais je vous donne l'idée. Il faut d'abord repérer les trois classes, les fermiers à gauche, les propriétaires au centre et les artisans à droite, qui correspondent à des colonnes. Les flèches vont correspondre à des transferts. Et on peut voir un processus qui s'auto-reproduit et qui démarrerait comment ? Eh bien, les fermiers en haut à gauche disposent d'un surplus par rapport aux produits de l'an dernier de 2 milliards. Ils vont en faire profiter les propriétaires sous forme de rente. Les propriétaires enclenchent la machine économique par des dépenses. Il y a une flèche qui part des propriétaires vers la droite, ce qui correspond à 1 milliard d'achats chez les artisans et 1 milliard d'achats chez les fermiers. Si on s'intéresse maintenant aux artisans, on voit que les artisans vont toucher aussi 1 milliard des fermiers. C'est la flèche qui part du haut à gauche et qui arrive vers le bas à droite. On a déjà totalisé les comptes des artisans qui sont de 2 milliards, à la fois comme rentrée et comme dépense. Pardon, je ne vous ai pas décrit les dépenses des artisans, je vous ai décrit leur rentrée seulement. Les dépenses des artisans qui correspondent à deux flèches partant de la colonne de droite, ces deux flèches ou ces deux lignes correspondent à 2 milliards d'achats des artisans aux fermiers. Ce n'est pas sur le tableau, mais Quesnay décompose cela, 1 milliard de matières premières et 1 milliard de subsistance. Donc voilà, 2 milliards égale 2 milliards, j'ai achevé le bilan des artisans. Je pourrais continuer avec les fermiers et avec les propriétaires fonciers, mais je ne le ferai pas. Vous voyez que derrière une formulation obscure, on devine quelque chose d'important. Mirabeau et Quesnay n'étaient pas modestes. Voilà ce qu'ils nous disent de cette magnifique trouvaille. Le tableau économique est la première règle d'arithmétique que l'on ait inventée pour réduire au calcul exact, etc. Je vous laisse lire. J'ai souligné en gras deux phrases parce qu'elles contiennent par avance des termes modernes de discipline des sciences sociales d'aujourd'hui. Il est question de la science économique. C'est remarquable. C'est l'une des premières occurrences historiques de l'expression. Et il est aussi question de la politique économique qui, comme vous le savez, est un des grands sujets de la science économique. Donc, vous admirerez la prétention. Était-elle justifiée ? Les successeurs se diviseront. Marx rendra hommage au génie de Quesnay et il y a de fait une filiation entre le tableau et ce qu'il appelle les schémas de la reproduction capitaliste simple ou élargie. Et Léontief, en 1951, au moment où il construit pour la première fois une matrice input-output de l'économie américaine, la présente comme une tentative pour construire un tableau économique des États-Unis. C'est un coup de chapeau notable. Mais d'un autre côté, d'autres voient dans le tableau une mystification. Et l'on voit là la vieille controverse sur la mathématisation en sciences sociales avec une attaque en règle de deux économistes un peu oubliés aujourd'hui, mais je signale que professeur Charles Rist était l'un des vôtres, en fait, au début du XXe siècle. Alors, ces commentaires opposés, en fait, pêchent, à mon sens, conceptuellement, parce que implicitement, il rattache le tableau à l'économie mathématique, ou explicitement, c'est une erreur de délimitation. Kainé fait certainement accomplir un pas considérable à ce qu'on appelle l'arithmétique politique, c'est le courant dans lequel il s'inscrit. Le fondateur en est William Petty, dans un ouvrage de 1690, au titre éponyme, et d'autres Britanniques. Et chez eux, l'arithmétique politique consistait simplement à produire des données empiriques sur les populations, les productions, le commerce. Les données numériques de Kainé sont différentes. Elles sont, dans le tableau que je vous ai montré, entièrement illustratives. Donc elles sont conçues en fonction d'une thèse, en l'occurrence, c'est la thèse fameuse de la productivité exclusive de l'agriculture. Donc vous voyez le saut théorique, ne soyons pas chauvins, on est passé des Britanniques aux Français, il y a un surcroît de théorie. Un mot au passage de William Petty, qui est un personnage assez étonnant, puisque c'était un ami de Cromwell, en fait, et il a été envoyé en Irlande pour arpenter et mesurer les biens fonciers des seigneurs catholiques que Cromwell envisageait de spolier pour récompenser ses propres commanditaires. Voilà. Et Petty a fait ce travail très pratique qui l'a amené à collecter à sa vie durant des données sur d'autres sujets. Il a tenté de se faire élire au Parlement britannique, il n'a pas réussi. C'est le cas très bien représenté, en fait, de l'expert économique qui ne réussit pas à entrer sur la scène politique. Donc, il s'est consacré à ses chères études. Donc, vous voyez le pas que franchit Kainé, mais voilà, les mathématiques ne commencent pas à l'usage des nombres et des quatre opérations, sans quoi tous les comptables seraient des mathématiciens. Et le tableau, si remarquable soit-il, n'est qu'un exercice de comptabilité nationale. Et voyons le travail qu'effectue un certain Phillips, économiste des années 50, auteur d'une courbe bien connue, le travail qu'il effectue à partir du tableau. Eh bien, si on le regarde de près, on comprend où commence la mathématisation avec le remplacement des nombres par des variables, c'est-à-dire avec l'algèbre. Et le tableau devient un cas particulier d'une classe d'objets mathématiques généraux, objets que l'on peut traiter pour eux-mêmes indépendamment de la visée économique initiale. Et c'est la seconde partie de la page, vous voyez que l'algèbre entre en scène, les nombres ont disparu. Et pour faire le lien quand même entre l'algèbre et le tableau, voilà une matrice numérique. Elle nous fait exactement le lien. Ce sont les nombres de Kainé, mais ils sont organisés différemment sur le plan spatial et théorique, en fait, et cet objet où vous retrouvez les nombres que j'ai commencé à décrire, avec les ventes qui sont totalisées en bas et les rentrées qui sont totalisées en colonne, en hauteur, eh bien, ce tableau est un cas particulier d'un objet très savant qui s'appelle une matrice carrée à coefficients non négatifs et qui est soumise à certaines propriétés, en l'occurrence l'égalité des sommes de lignes avec les sommes de colonnes de même rang. Voilà. Alors, là, je voudrais me risquer un petit peu de philosophie des mathématiques à coup de butoir, pardonnez-moi d'aller aussi vite. J'aime distinguer, ce n'est pas entièrement commun, ce n'est pas non plus révolutionnaire, j'aime à distinguer entre symbolisation, formalisation et mathématisation. Donc la symbolisation, c'est un procédé consistant à remplacer les signes d'un langage par les signes d'un autre, le remplacement obéissant à certaines contraintes, uniformité et de cohérence. Et le propre de la symbolisation est que des significations peuvent rester attachées aux nouveaux signes. Ce sont des significations qui sont prises dans celles qui étaient attachées aux signes anciens, mais elles sont en quelque sorte retriées et réarrangées, ce qui est la valeur ajoutée de la symbolisation. Ce que j'appelle formalisation, c'est l'acte qui consiste à traiter les signes comme s'ils étaient des objets en eux-mêmes, c'est-à-dire en faisant abstraction de leur signification. La formalisation suppose normalement la symbolisation, il y a des exceptions, mais peu importe. Et quand je dis traiter les signes, je veux dire effectuer des opérations sur eux. Et je dirais qu'une formalisation ne commence que s'il y a cette phase active d'opération, sinon on en reste au jeu de la symbolisation. Quand y a-t-il mathématisation ? Eh bien, lorsque les opérations qui mettent en branle les signes sont des opérations recensées du corpus des mathématiques, tout simplement. Ce sont des opérations algébriques, des transformations combinatoires, la dérivation et l'intégration, etc. Et cette phase est alors réglementée donc, par des résultats généraux, au lieu d'être soumise à des décisions ad hoc. Mais il peut y avoir des décisions ad hoc quand on invente un formalisme, comme a fait Russell, par exemple, avec la logique formelle, eh bien, c'est lui qui prenait les décisions au lieu d'emprunter aux règles préexistantes ou de la mathématique constituée. Alors, où en sommes-nous dans le tableau économique ? Eh bien, la symbolisation se manifeste, quoique assez maladroitement, par l'utilisation de nombres déjà, c'est de la symbolisation, parce que de cette manière, on regroupe deux concepts que le bon sens distingue spontanément, les entrées et les sorties, les ventes et les recettes, le même nombre pouvant jouer les deux rôles. Et d'autre part, il y a un essai assez touchant, je vous l'ai présenté, de présentation synoptique, le zigzag. La formalisation est totalement absente, donc Kenney n'appartient certainement pas à la mathématisation, mais elle arrive lorsque Leontief construit les matrices input-output et que M. Phillips fait le lien. Donc voilà une manière donc d'illustrer la triade conceptuelle. Passons à un autre exemple. Il relève de l'analyse de la décision rationnelle. Elle s'est entièrement renouvelée au XVIIe et XVIIIe siècle avec l'invention du calcul des probabilités. En substance, le modèle archaïque aristotélicien, par exemple, de la délibération des moyens compte tenu des fins proposées, s'est montré inapte au traitement de l'incertitude, d'où l'appel à de nouveaux concepts. Alors, on le sait bien, les concepts de probabilité et d'espérance mathématique sont déjà présents chez Pascal dans ce qu'on appelle le problème des parties. Il s'agissait d'évaluer ce qui revient à chacun des joueurs du total des mises sur la table lorsqu'ils interrompent une partie avant la fin. Il faut calculer en quelque sorte le droit de chaque joueur à une proportion des mises. Et pour cela, Pascal se sert de l'espérance mathématique en calculant les probabilités par l'analyse combinatoire. Alors, Bernoulli ajoute la considération supplémentaire de ce que les économistes nommeront plus tard la fonction d'utilité, l'emolumentum, de sorte que chez lui, on a les trois concepts ensemble, la probabilité, la fonction d'utilité et l'espérance mathématique portant désormais sur la fonction d'utilité. Pourquoi en vient-il là ? Parce qu'il rencontre le paradoxe de Saint-Pétersbourg. C'est un jeu de pile ou face répété et il comporte les gains suivants. Au premier jet, 6 piles, le jeu s'arrête et vous touchez 2 ducats. 6 faces, on procède à un deuxième jet. Au deuxième jet, 6 piles, le jeu s'arrête et vous touchez 4 ducats. 6 F, face, on procède à un troisième jet, et ainsi de suite. Alors, vous devinez la loi de la séquence. Au énième jet, 6 piles, le jeu s'arrête et vous touchez 2 à la puissance n du cas. Et si f, on procède à un énième jet, on passe au énième jet. Alors, d'après le critère de l'espérance mathématique de gain, appliqué donc au du cas, le jeu vaut l'infini, de sorte que vous devriez être prêt à donner n'importe quelle somme pour y participer. Ce n'est pas le cas, c'est le paradoxe. Bien. Que fait Bernoulli ? Il répond en substance que les sommes d'argent ont une valeur subjective, un emolumentum, et que l'espérance mathématique ne doit pas se calculer sur des ducats, mais sur des emolumenta, c'est-à-dire sur les valeurs subjectives données à l'argent. Il prend la fonction logarithme et, miracle, elle lui garantit une espérance mathématique finie. Bon. Il a résolu, au moins jusqu'à un certain point, le paradoxe. Le choix de la fonction logarithme est motivé par le fait qu'un ducat supplémentaire n'a pas la même valeur subjective s'il s'ajoute à un premier ducat ou s'il s'ajoute, disons, à un premier ensemble d'un million de ducats. C'est la propriété d'utilité décroissante de la monnaie avant l'heure. Alors, que tirer de cela ? La conception ancienne n'était pas mathématisable. Avec Bernoulli et Pascal, déjà, les trois caractères qui nous importent sont réunis. Pour le premier caractère, la symbolisation, on a bien un symbolisme pour les chances et la valeur subjective. Pour les caractères de formalisation et mathématisation, ces symbolismes ont un développement autonome grâce à des théorèmes généraux. C'est le théorème du triangle arithmétique chez Pascal et chez Bernoulli, ce sont des résultats qui commençaient à avoir cours en analyse sur la convergence des séries. Eh bien, c'est le point de départ d'une grande théorie d'aujourd'hui, dont je m'occupe un petit peu avec beaucoup d'autres, c'est la théorie d'utilité espérée qui a donné naissance à la théorie de la décision et à la théorie des jeux. Je n'interprète pas plus, je vous présente mon troisième et dernier exemple, le travail de Condorcet. Alors, il est intéressant de dire qu'il relève encore de l'arithmétique politique, toujours dans la conception française théoricienne. Mais il diffère de Quesnay en ce sens qu'il adopte une méthode d'emblée mathématique. Et il diffère aussi par l'objet. L'objet est la décision collective en général et les règles de vote en particulier. Prenons le vote à la majorité relative. Le candidat qui a le plus de voix est élu parmi N candidats. Règle toute simple que la Grande-Bretagne applique, par exemple, dans son scrutin uninominal. Condorcet découvre que le vote à la majorité relative présente un inconvénient grave, le voici. Hors des cas où elle coïncide avec une majorité absolue, ce vote ne peut pas représenter correctement les préférences des électeurs. Je crois que le buste de Condorcet est malheureusement dissimulé par ses propos qui voudraient l'honorer. Condorcet se donne trois candidats, ABC, 60 électeurs, dont les préférences sont indiquées ci-dessous. Alors vous voyez, vous avez les groupes d'électeurs, ils sont quatre avec leurs effectifs. Et pour chaque groupe, vous avez des préférences qui vont par ordre descendant. Par exemple, le groupe de 23 préfère A à C et C à B. Alors, le critère de la majorité relative nous donne A comme vainqueur par 23 contre 19 et 18 à C. Et maintenant, voilà un autre mode électoral. Dans les votes effectués 2 à 2, vous constatez que A perd deux fois. Regardez maintenant les préférences. On a supposé jusqu'à présent que les électeurs votaient pour le candidat qu'ils mettaient en tête. Mais maintenant, on va regarder de près leurs préférences et regarder le nombre de fois où A l'emporte sur B, par exemple. Alors, 23 dans la première colonne et 2 dans la dernière, ça fait 25. Donc, A est battu par B par 25 voix contre 35. Faisons le même calcul sur C. Vous voyez que A l'emporte sur C uniquement dans le groupe de 23. Donc, il est battu par C par 23 contre 37. B gagne une fois contre A, on vient de voir. On constate que B perd une fois contre C. Et C eh bien, gagne deux fois. Alors, voilà qui est étonnant, parce que la méthode binaire de Condorcet débouche sur C, qui était le candidat le plus maltraité par la majorité relative. Et cette méthode, eh bien, elle a tous les titres à être considérée, parce qu'elle rend compte des préférences entières et non pas seulement des choix de tête. C'est la méthode de Condorcet qui fait couler de l'encre encore aujourd'hui. Condorcet recommande cette méthode des votes 2 à 2. Il sait très bien pour autant qu'elle ne donne pas toujours de solution. En modifiant les préférences des 60 lecteurs, il obtient un cycle, ce qu'on appelle le cycle de Condorcet. A est battu par B, qui est battu par C, qui est battu par A. Il n'y a plus de vainqueur. La solution binaire a échoué. Ceci établit une propriété très remarquable, négative malheureusement, et beaucoup plus forte que la précédente. Aucune méthode n'exprime correctement les préférences dans tous les cas. Pourquoi ? Parce que la méthode que nous venons de voir est celle qui a les titres à exprimer le mieux les préférences, et elle échoue pourtant. Donc sous cette forme, la conclusion anticipe le théorème d'impossibilité d'Arrow qui lui donnera une forme encore plus mathématique et qui renouvellera la science politique et non moins la science économique. Ce que je voudrais dire en guise de commentaire est que Condorcet est déjà dans l'ordre de la mathématisation. L'exemple que je vous ai présenté est purement arithmétique, comme ceux de Quesnay, mais néanmoins il y a une analyse que j'ai dissimulée, et c'est une analyse probabiliste en fait. Il redéfinit, c'est très intéressant pour les historiens de l'arithmétique politique, il redéfinit cette discipline comme l'application du calcul aux sciences politiques, et plus précisément comme l'application du calcul des probabilités. Par la suite, il dira mathématiques sociales. Et de fait, il y a un calcul probabiliste, mais je vous en ai dispensé, c'est que Condorcet va se demander quand survient le cycle de Condorcet, utilisant l'analyse combinatoire, il va donner une probabilité d'échec de sa règle. Donc on est indiscutablement dans l'ordre de la formalisation et de la mathématisation. Alors je prétends que ce sont des exemples représentatifs. Grosso modo, ils correspondent à 4 courants généraux, ce que j'appellerais la mise en ordre des statistiques sociales. Et à ce sujet, c'est une distinction élémentaire, pardonnez-moi, mais gardons-la en tête. Distinguons la statistique comme documentation et la statistique comme science ou art de l'étude des faits avec l'aide de l'outil probabiliste. Et bien sûr, là où l'origine de la mathématique pointe anciennement, c'est avec la statistique comme documentation, c'est l'arithmétique politique de William Petty. Deuxièmement, l'analyse de la décision rationnelle, Bernoulli, et l'analyse des institutions. Alors là, j'élargis massivement, mais j'aurais aimé vous développer ce point, et il aurait fallu beaucoup plus de temps. Les institutions prises dans leur structure abstraite, n'est-ce pas, et non pas dans leur but ou dans leur fonctionnement. Donc les institutions dégagées, en fait, d'un parti pris téléologique. Je prétends que le paradoxe de Condorcet relève de ce type d'analyse. Alors audacieusement, je le rapprocherai presque, voyez-vous, de la veine structuraliste en sciences sociales aujourd'hui. Et il y a une source que je mets faute de temps et qui est très importante, ce sont les analogies physiques des sciences sociales, bien entendu. Chez les grands néoclassiques, Walras, Pareto, et pour parler d'une autre discipline, la loi de Weber-Fechner, qui est dérivée à la manière des physiciens. Voilà, alors ce sont, j'oserais dire, les grandes sources de la mathématisation, mais parlons un petit peu philosophie, après avoir parlé histoire. La thèse fondamentale que je voudrais soumettre est celle-ci. La théorie débute là où précisément débute la mathématisation. Voilà. Quesnay tâtonne vers une théorie, c'est admirable et très intéressant parce qu'il n'en est pas loin, mais il n'y est pas encore. Condorcet, en revanche, fait d'emblée un apport théorique. Ce n'est pas par hasard que la littérature d'aujourd'hui le considère comme dans la conversation, et de même pour Bernoulli. Alors, à quoi repère-t-on l'apparition d'une théorie, finalement ? Le débat d'idées se canalise autour d'un petit nombre d'idées, hein, c'est une restriction massive, mais qui va permettre le travail, Bernoulli nous permettrait de comprendre comment cette réduction s'opère. Les idées qui restent pertinentes se différencient, il y aura des idées fixes et des idées amovibles. Des idées importantes et des idées secondaires. Une hiérarchie s'est mise en place. Et Condorcet nous permettrait d'illustrer le point. Autre trait, les exemples concrets, ou bien ils deviennent des applications, ou bien on n'en parle plus, ils sont écartés. Et Léon Tieff nous permettrait d'illustrer le point. Alors, c'est une phénoménologie rustique des théories, bien sûr, pardonnez-moi, mais je voulais vous dire comment, si j'avais plus de temps et de moyens, je défendrais cette thèse, hein, qui est la thèse importante, que la théorie débute là où précisément débute la mathématisation. Parce que c'est très, en quelque sorte, concret ou phénoménologique de ce que sont les théories, eh bien, ils communiquent avec les principes du raisonnement mathématique. Vous l'aurez reconnu de vous-même. La mise à l'écart d'un certain nombre d'idées, la restriction volontaire, le traitement des exemples, la différenciation entre ce qui est fixe et ce qui est variable, et ainsi de suite. Les mathématiques n'ont pas seulement ce rôle constitutif que j'ai décrit, elles ont un rôle régulateur. Par quoi, je veux dire, elles nous permettent de réguler ou régler plus correctement les hypothèses. Cela veut dire de nous aider à former des hypothèses, c'est l'heuristique, et de nous aider à évaluer les hypothèses après coup, notamment dans ce qu'on appelle le test. Ainsi, premier rôle, le concept de système de production représenté par les matrices input-output de Léon Tieff a fait bénéficier l'économie de suggestions diverses qui sont liées à l'algèbre de ces objets. Et là, on voit un mouvement bien repéré qui consiste à se livrer dans le formalisme aux opérations sur les signes dans l'oubli complet de ce qu'il représente. Et une fois qu'on a dérivé certains résultats intéressants, on repasse à l'interprétation. Donc le pouvoir heuristique de la mathématique ici paraît considérable. Et cette source d'inspiration est très importante pour l'économie, au point que, à juste titre, à vrai dire, on dit qu'elle l'avantage trop par rapport à l'observation des faits. Le rôle de l'évaluation des hypothèses apparaît sous un angle théorique et empirique, par exemple en calculant les probabilités des configurations de préférence. La théorie du vote va permettre l'évaluation des systèmes électoraux. Est-ce que la proposition de Condorcet est bonne ou mauvaise, pour le dire crûment? Cela va se voir notamment grâce au calcul de la fréquence des cas d'échec. Et l'évaluation empirique, c'est-à-dire l'analyse mathématique du test, il est tellement évident qu'elle importe que je ne la développerai pas. Parlons d'un troisième rôle des mathématiques, rappelez-vous, constitutif, régulateur, et j'ajoute maintenant prescriptif. Alors, qu'est-ce que la prescription? Beaucoup ne l'identifieraient pas comme une zone conceptuelle séparée, je le fais sans entrer dans les détails. Partons de ceci, les significations immédiates relèvent de deux ordres dans les sciences sociales et on les désigne couramment comme l'ordre positif et l'ordre normatif, les choses sociales comme elles sont, les choses sociales comme elles devraient être. Et il y a d'autres terminologies, mais celle-ci a pris le pas au moins au XXe siècle. Alors, cette dualité sémantique, on s'attend à ce qu'elle soit évincée par le formalisme, bien entendu, mais on s'attend aussi à ce qu'elle revienne au moment où l'on réinterprète les formalismes. Et on aura cette dualité qui est tout à fait caractéristique des sciences sociales mathématisées. Le système productif satisfait à telle propriété de reproduction, simple ou élargie, ou bien il doit satisfaire, c'est l'un ou l'autre, et c'est le même objet mathématique qui pointe dans ces deux directions très différentes. Bon, j'ai prétendu ailleurs que les significations normatives étaient absolument inexpugnables en sciences sociales, ce qui m'a valu quelques querelles avec de bons collègues. Alors, la prescription, je voudrais vous proposer de l'avoir comme un entre-deux du normatif et du positif, en fait. Donc, je conçois la prescription comme une règle d'action qui est fondée sur une norme donc qui se réclame du normatif, mais qui en même temps est concrète et réellement applicable et qui a donc besoin du positif. Exemple, prenons le critère de l'utilité espérée. Vous pouvez en faire une simple norme et tenir des raisonnements divers à son propos sans préciser ce qu'est la fonction d'utilité. Mais si vous voulez prescrire, à ce moment-là, vous aurez le travail de révéler, d'identifier ce qu'est la fonction d'utilité de l'agent. Et là est la tâche précise de la prescription. Et voilà, ce sont des mathématiques distinctes. Vous me pardonnerez de ne pas développer trop, mais l'analogie qui peut nous aider, c'est que ce sont les mathématiques de l'ingénieur par rapport à celles du physicien. La prescription est généralement le fait d'un expert extérieur, non pas du sujet lui-même. L'expert va employer couramment une théorie formalisée, mais celle-là ne lui donnera pas toutes les données et il lui faudra donc faire un travail supplémentaire et d'autres mathématiques interviennent. Et, alors, nous avons là finalement un troisième rôle. Vous voyez, les mathématiques ont un rôle constitutif, régulateur et maintenant prescriptif. Voilà, alors, j'espère être presque dans les temps. Faut-il glisser justement vers une prescription au terme de ces propos beaucoup trop rapides? Eh bien, je ne sais pas s'il le faut, c'est dangereux, mais je m'abrite derrière quelqu'un de beaucoup plus considérable. Voilà ce qu'écrivait Lévi-Strauss en 1955. J'ai découvert ce texte avec une certaine stupeur, je dois vous dire. Si les sciences sociales doivent devenir véritablement des sciences, et pour parler court, si elles doivent continuer d'exister d'ici 20 ans, il est indispensable qu'une réforme soit opérée de toute urgence. On peut, dès aujourd'hui, être certain que les jeunes spécialistes de sciences sociales devront désormais posséder une solide et moderne formation mathématique, sans quoi ils seront balayés de la scène scientifique. Alors, ceci est écrit dans une introduction développée à un recueil publié par l'UNESCO en 1955 qui s'appelle « Les mathématiques et les sciences sociales ». Et le recueil contient bien entendu un développement sur les algèbres de la parenté dont Lévi-Strauss s'est occupé. C'est un point que j'aurais aimé développer. En effet, la rencontre qu'il a faite du mathématicien Weil à New York dans l'après-guerre, pendant la guerre, pardon, lui a permis d'entrevoir que des outils algébriques pouvaient l'aider à mettre en ordre ses conceptions de la parenté. Et cela a été une sorte d'éblouissement pour lui. Il a très bien compris, en fait, qu'il s'agissait d'un type de mathématiques très différente de celle qu'il avait apprise au lycée et de celle qu'on apprend d'habitude, parce que c'est ce qu'il nomme les mathématiques qualitatives. Donc Lévi-Strauss, dans son éblouissement de 1955, nous fait cette prédiction stupéfiante. Bien, on peut l'accueillir avec un sourire respectueux. Les sciences sociales ont survécu 20 ans après, en 1975, et encore aujourd'hui, en 2014, elles survivent alors qu'elles n'ont pas encore complètement appliqué la révolution demandée. Il s'en faut. Mais se portent-elles bien? Vous saurez me le dire, vous êtes les experts. Mais qui prétendrait que l'économie se porte bien? Qui dirait que la sociologie est une discipline vigoureuse et à la hauteur de ses espérances? Et à nouveau, laissons de côté l'histoire. Qui dirait les sciences sociales florissantes? La recommandation de Lévi-Strauss, évidemment, prend un relief particulier du fait qu'elle n'émane pas d'un économiste forcené de mathématiques, mais d'un néophyte ébloui.